Bienvenue dans l'Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Oh boy, on est le 9 septembre 2024. Salut, bon lundi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Dire que là, quelques années, j'étais sur les bancs d'école au secondaire, assis dans le fond de la classe, à me dire la journée va-tu passer? Pour après ça, aller avec mes chums, rien faire. Ça passe vite le temps, les amis.
C'est vrai.
Ouais. Puis, on n'était pas au courant que c'était de belles années qu'on vivait.
C'est vrai, on avait l'impression que le temps passait lentement. On avait l'impression que c'était interminable, ouais. Qu'on n'arriverait jamais à vie adulte.
Ben en fait, elle n'existait pas, cette vie-là.
Non!
Elle n'existait pas. C'était pas écrit encore. Fait qu'on était à l'école, on était avec nos potes, puis on regardait les filles.
Ah, t'es chanceux. J'ai pas eu le même genre de secondaire que toi, non, définitivement.
Tu m'en as déjà parlé. Mais j'ai jamais... tu sais, moi, ça s'appelait pas de même. Ça s'appelait pas de l'intimidation.
Ben, nous autres non plus, on n'était pas forts sur ce terme-là on l'est aujourd'hui.
Se faire écœurer.
C'est ça.
T'sais, le vocabulaire était peut-être pas assez développé à ce moment-là, ou peut-être était juste dans mon secteur, là, ce qui ne me surprendrait pas. Ben. Mais c'était se faire écœurer. Il y en a qui se faisaient écœurer parce qu'ils étaient gros. Il y en a qui se faisaient écœurer parce qu'ils étaient roux. Il y en a qui se faisaient écœurer parce qu'il y a des gros seins. Il y en a qui se faisaient écœurer parce qu'il y a des grands nez.
Est très, très large aujourd'hui, là, dans le sens que la moindre affaire rentre là-dedans. Là. Mais tu sais, il y en a qui se faisaient écœurer solide. Là.
Ah, il y en a qui étaient tout le temps la victime, à toujours.
Ben, c'est ça, là. Rendu là, je veux dire, c'est peut-être un peu... Non, on n'a définitivement pas le même secondaire. Quoi qu'il faut que je dise que mes deux dernières années ont été un peu plus légères quand même. Puis j'ai passé du bon temps, là. Mon bal, j'en ai profité. Puis c'est mon Coventum cette année.
J'ai pas été à mon bal, moi.
T'as pas été à ton bal?
Non.
Oui, en crime, tu as fait quoi?
J'ai fait des erreurs.
Pourquoi t'as... Raconte-moi ça. De quoi t'as fait des erreurs?
Oh boy, j'avais...
T'as été suspendu de ton bal.
Non, pas du tout. J'avais invité personne, mais j'avais dit oui à 3 personnes.
Ah, oh, ça, c'est chien.
Ouais.
Que t'as littéralement brisé le petit rêve de 3 petites filles.
J'étais pas capable de dire non. Fait que finalement, j'ai dit aux 3 que j'étais malade, puis j'ai pas été, ça m'intéressait pas. Ouais.
T'es-tu sérieux?
Oui, ouais.
C'est épouvantable! C'est-tu ce que ça représente pour une jeune fille, cette journée-là?
Un cauchemar.
Ben non, le fait de se faire maquiller, coiffer, de mettre sa belle grande robe de princesse,
ouais, mais...
tu signes la fin d'une grande étape dans ta vie.
J'étais malade.
T'étais pas malade, Yannick Marceau.
Je filais plus ou moins.
Oui, oh, ouais, c'est ça, oui, parce que t'avais menti.
Eh oui.
Mais en fait, tu dis ça, puis sais-tu quoi?
J'étais pas capable de dire non.
Mais je comprends. Moi, mon bal, je me suis retrouvée à la même table. En secondaire 5, j'ai vécu une drôle de situation. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un pour comprendre et savoir. Parce que nous, à l'école secondaire où j'étais, on avait du PEI puis du régulier, OK? Puis je me suis mis à fréquenter un gars qui était à l'extérieur de l'école pour comprendre à un moment donné que moi, j'étais au PEI puis que son autre blonde était au régulier.
Ah, il y avait 2 blondes.
Ouais, c'est
temps.
Ça, mais on savait pas, dans
un
le fond.
Génie.
Fait qu'à un moment donné, on a réalisé qu'on était 2. Tu comprends? Finalement, c'est moi qui ai gagné. On a été ensemble 4 ans.
T'es resté avec pareil.
Le point est que, ben non, mais je... Ah oui, j'ai été nounoun. Pour vrai, j'ai été nounoun. Ben, attends une minute. Il a commencé à me voir, moi, il était en couple avec elle. Dans le sens que moi, de mon bord, j'ai pas été blessée dans la mesure où j'étais pas déjà en couple. Tu comprends ce que je veux dire? Il a trompé avec moi, finalement.
OK. Puis mais toi, tu le savais pas.
Je l'ai appris un jour. J'étais arrivée en retard à l'école, puis j'ai vu une fille broyer dans un corridor avec sa chum de fille. Puis là, ben, moi étant moi, t'es-tu correct? J'ai appris que mon chum me trompait. Nanana. Elle me dit son nom, puis je réalise que c'est le mien parce qu'il n'y en avait pas 8 qui s'appelaient de même.
Est-ce que tu y as dit à ce moment-là?
Absolument. J'ai appelé la personne en question, le gars en question.
Pendant qu'elle t'a dit. Ben,
j'ai dit que c'était moi. Quand elle m'a dit que c'était le gars, je dis arrête, je vois un gars qui s'appelle le même. Fait que là, tu comprends, tu cherches Facebook, tu catches que c'est la même personne.
Ouais.
Il a mangé une rince.
Oui.
Mais bref, oui, on a recommencé à se fréquenter au bout de quelques mois, puis il est venu au bal avec moi.
OK.
Mais tu comprends, on était à la même table que son ex.
Hey boy.
Ça a été un bal vraiment, vraiment particulier. J'ai préféré mon après-bal, où là, j'avais mes chums chez nous, puis j'étais un peu plus en sécurité dans mes affaires, mais c'était une drôle de fin de secondaire.
À la même table, au bal.
Oui. Puis là, ben, cette année, en octobre, on a notre conventum. Je voulais pas y aller. J'ai détesté mon secondaire. Puis mon truc pour me dire qu'il fallait que j'aille faire un tour puis que je me tienne les épaules droites, là, parce que ma vie va bien, là. Je suis sur l'organisation.
C'est un très bon truc.
Je vais être occupée toute la journée à organiser le conventum, à accueillir le monde, puis quand je vais être écœurée, je vais pouvoir partir.
Mais ton histoire me fait penser à une autre histoire. Un de mes chums qui a fréquenté 2 sœurs à 10 ans d'intervalle, là. Il a sorti avec la première sœur pendant 3 ans. Donc, il a fait partie de la famille pendant 3 ans.
OK.
Ça s'est terminé. Puis, 10 ans plus tard, il est revenu dans la famille, mais avec l'autre sœur.
Hein?
Ouais.
Je sais pas comment je me sentirais.
Moi, j'embarque pas là-dedans.
Mais le pire, c'est que ça dépend. Non, mais ça dépend, t'es où dans ta vie?
Non, non, mais peu, dirais... Il y a quoi? Il y a, mettons, 8 milliards d'humains sur Terre. Là.
Mais je sais.
La sœur, c'est non.
Oui, mais imagine que t'es avec ta blonde en ce moment, tu rencontres sa sœur, puis tu tombes en amour, coup de foudre.
Non.
Tu le contrôles pas, t'es en amour bien raide. Il a attendu 10 ans que les deux, pareil. Non, non. Si les deux sœurs sont consentantes, sont d'accord avec ça, puis tout va bien, je veux dire, la vie est belle.
Non, non. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre, fait que calcule qu'il y a 4 milliards de filles, mettons, t'as plus de choix, là.
Puis que tu retournerais pas là, toi.
Non, mais non, mais non.
Je ne sais jamais poser la question, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais. Écoute, mais en fait, tu dis, mon chum a un petit frère, puis je pourrais jamais, mais jamais, mon Dieu, tomber en amour avec son petit frère, puis revenir avec, mettons que je ne suis plus avec.
Je connais quelqu'un qui a fait un Martin Brodeur.
C'est-à-dire?
Il est. Cette fille-là est partie avec le mari de sa sœur.
Ah, oh, voyons donc.
Oui. Ils ont été ensemble pendant plus de 25 ans. Puis à un moment donné, ben, elle a laissé son conjoint. Puis quelques mois plus tard, ils se sont aperçus dans la famille que l'autre aussi avait fait la même affaire, puis ils étaient rendus ensemble. Donc ils ont été complètement exclus de la famille.
Hey, c'était épouvantable!
Martin Brodeur, c'était ça? C'était une affaire, une patente de même, là? Tu peux pas faire ça, jamais!
C'est vrai qu'il y a comme un code, hein? Il y a comme une loi non écrite. Ça m'est jamais arrivé. Je suis pas dans une situation où ça pourrait arriver de toute manière, là. Mais non. J'ai 88-971-101. Avez-vous des histoires comme ça? Hey, regarde, il y a quelqu'un qui nous dit sur le Twitch. Twitch.tv en passant, BLVD/FM. Mes deux sœurs ont eu le même gars, pas en même temps, mais ils ont sorti. Il est sorti avec ma sœur la plus vieille. Après quelques mois, il est sorti avec mon autre sœur la plus jeune.
Ouais. Mais là, c'est sûr que, tu sais, si c'était des petites amourettes, là, t'avais 7, 8, 9, 10 ans.
Je pense que ma mère puis ma tante ont déjà eu un chum commun. Je pense. Mais en même temps, je suis pas dans cette situation-là, c'est dur à imaginer pour moi, mais si j'avais une sœur, tu comprends.
Parfait. Pis... OK, je te mets dans un contexte. T'es entre 20 et 23 ans, t'as sorti 3 ans avec le gars.
Ouais.
Ça finit pas si bien que ça, t'es en amour avec, puis lui, finalement, il t'a trompé, OK?
Ouais.
Il sort de la famille.
Puis il revient en famille.
Puis il revient en famille 10 ans plus tard avec ta sœur.
Ouais, je pense qu'il y a, non, mais il y a une question de caractère là-dedans aussi.
Non, c'est pas vrai.
Ben oui, une question
que
de caractère.
Tu es en train de me dire là, tu trouverais ça totalement inacceptable.
Ben, à ta minute. Ben oui, mais non. Tu sais, si t'as un bon talk avec cette personne-là, à un moment donné, tu grandis aussi, là. Tu vieillis, là. Je veux dire, ces petits sentiments de marde-là, là, moi, je suis pas rancunière pour 2 cents, là. Fait que je pense que ça dépend comment t'es dans la vie. Mais je pense que si ma sœur me plaide que c'est vraiment l'amour de sa vie puis que je vais gâcher sa vie si je la laisse pas sortir avec mon ex, ben maintenant tu lâches prise, j'imagine. Là.
OK. Il n'y a aucun malaise.
Ben là, il y a un malaise. C'est sûr qu'il y a un petit fret au party de Noël, là. Tu sais, dans le sens que c'est particulier, là, je veux dire. Mais j'imagine qu'à un moment donné, tu passes par-dessus pour le crime, le bon de ta famille. Là.
Ouais. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est le fantasme d'aucun homme là, de voir deux sœurs en même temps.
Hé, mon Dieu, moi, j'ai entendu souvent le contraire.
Ah ouais, OK.
Oui.
Je me demandais pourquoi c'était une des catégories les plus consultées sur les sept louches.
Les jumelles et compagnie, là, tout ça. Là.
T'as-tu passé un beau week-end?
Hey, pour vrai, oui. Ça a été un week-end où j'ai vu bien du monde pour plein de raisons différentes. Ça a commencé vendredi avec l'événement de Jeff. Super bel événement. Si vous avez entendu les gars ce matin, ça va être autour de 13 500 $ qui vont être mis aux causes du cancer et de la santé mentale
Good
par l'événement
job.
Qu'il a fait. Ah, ça a été une super belle soirée. Je salue tous les auditeurs qu'on a rencontrés avec qui on a jasé. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Puis ben samedi, tailgate du Rouge et Or après le show. Ça a été un super bel après-midi aussi. Je veux dire, c'est toujours
Rouge
le fun.
Rouge et Or, la finale sur le botté, c'était de toute
ouais,
beauté.
Je l'ai manqué, c'était tellement niaiseux. 50... Je suis parti avant la fin du match.
Je pense que c'est 53 verges.
Il paraît que c'était pas parti pour ça pantoute, là, mais moi, j'ai vraiment quitté avant la fin du match. J'avais un plan de soirée avec le petit chum. Fait que j'ai pas toffé tout le match à Québec vu qu'on voulait remonter à la maison, mais ça a été une super belle journée aussi. C'est le fun, les tailgates.
Ouais, c'est le fun.
C'est vraiment trippant.
Salutations à Max qui était là avec l'équipe de Boulevard, puis les auditeurs qui se sont présentés, qui ont piqué une petite jasette avec Max. Moi, j'ai pas fait grand-chose en fin de semaine. C'est beaucoup de repos. On a été magasiné, puis j'ai été voir le film Beetlejuice.
Puis! Hey, ça a fait partie de mes plans de la fin de semaine, puis temps manqué. Est-ce que tu avais vu le premier? Dis-moi oui, là.
J'avais vu le premier. Ça date de quoi? 90,
mon
mettons?
Dieu, quelque chose comme ça,
je
là,
Je dirais 88, 90, à peu près. Les acteurs...
92.
T'es sûr? Ça, c'est plus jeune que ça.
Ah non, j'ai écrit Beethoven, ça prend. Ça, on reprend zéro.
Ouais, de mémoire, les images étaient un peu
1988.
Plus 88, oui. Ça ressemble plus à ça. Mais je veux dire, Michael Keaton en Beetlejuice, il est juste écœurant. T'as Winona Ryder aussi qui est là-dedans. Gina Davis, Alec Baldwin, il était dans le premier.
Dans le premier.
Mais le Beetlejuice 2, il t'a toute une distribution.
Avec Jenna Ortega, qui est la fille, mon Dieu, qui fit dans le rôle de la petite gothique, là, peu importe dans quel film ou série tu la mets. Là.
Monica Bellucci est là.
Ah oui?
Oui, le cœur me fend à chaque fois. Elle transperce l'écran. T'as William Dafoe aussi, puis un jeune que je connaissais pas, là, Archer Conti, qui est là-dedans. T'as Danny DeVito aussi, qui a un petit rôle.
T'as-tu fait l'exercice de réécouter le premier avant d'aller voir celui au cinéma?
Je m'en souvenais. Je m'en souvenais. C'est pas une histoire qui est super bien ficelée, là. Mais Tim Burton, c'est un génie de la créativité.
Absolument.
Sérieusement, juste pour la créativité de Tim Burton, ça vaut l'investissement d'aller le voir au cinéma. Mais l'histoire, je l'ai toujours trouvée un peu particulière. T'sais. Autant dans le premier Beetlejuice que dans le deuxième. Puis j'ai jasé un peu avec mes gars, puis la petite que j'avais apportée avec moi aussi... avec ma préfable. Puis, c'est quoi l'histoire? T'as vu le film, là, c'est quoi l'histoire? Puis, il comprenait pas trop.
OK, mais est-ce que la nostalgie, mettons, de ton côté, a fait de la job?
Ben oui. T'sais, moi, je retrouvais des années de mon enfance où j'avais écouté ça. Là. J'avais
Parce que j'entends juste des bons commentaires. Le monde trippe, il paraît. Là.
Pour la créativité. Je suis pas mal persuadé que c'est vraiment la créativité qui ressort le plus. Parce que l'histoire... Tu sais, dire trois fois Beetlejuice, puis après ça, il sort de la maquette. Puis là, c'est un petit démon drôle. T'sais, je sais pas. C'est une petite histoire un peu conne. Là.
Mais oui, mais en même temps, c'est ce qui a pogné à l'époque, puis c'est ce qui fait que probablement ça pogne aujourd'hui aussi. Là.
Je pense pas que ça soit un grand succès, honnêtement. Non.
Ben écoute, moi j'ai vraiment hâte de le voir. Il est sur ma liste absolument à aller voir au cinéma. En fin de semaine, finalement, hier après le vendredi puis le samedi, j'ai décidé de tirer la plug un peu puis de me reposer, mais j'ai vraiment le goût d'aller... C'est rare que je vais au ciné, moi. Là. Je sais pas toi si c'est une activité là, que tu fais souvent, là, d'aller au cinéma.
Ouais, je vais peut-être une à deux fois par mois.
Moi, c'est vraiment rare. Là. Faut vraiment que j'ai un film qui me tente. Puis on a jasé pas mal dans le retour la semaine passée de Beetlejuice. Puis écoute, il est là. J'ai vraiment hâte de voir la performance de Jenna Ortega. Surtout, moi, c'est une actrice que j'aime énormément depuis que j'ai vu la série Wednesday sur Netflix. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais si tu dis que la nostalgie fait la job, d'après moi, les critiques sont déjà pas pires.
Oui, monsieur, madame. Vous voulez nous rejoindre? C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Gros show aujourd'hui. On a le plaisir de jaser avec Christian Genet, qui est un entrepreneur conférencier. C'est un boxeur aussi, ce que je savais pas. Je l'avais croisé dans mon ancienne vie, dans la restauration. C'était un client, puis il était bien sympathique. Ben, il va venir faire son tour en studio pour parler de son livre qui vient de sortir. En 12 rounds. Et... sinon, aussi, vers la fin de l'émission, on va avoir Véronique Boudreau, qui est une psychologue du sport.
Oui, mais ça c'est assez particulier parce que Véronique est allée aux Paralympiques pour être justement psychologue avec les athlètes là-bas. Puis ça a terminé hier, les Paralympiques. Fait que de voir un peu son expérience à travers tout ça. Mais tu sais, la différence aussi entre la psychologie régulière, j'ai envie de dire, puis quand tu travailles avec des athlètes de haut niveau, tu sais, il y a une pression quand tu es athlète. Es-tu vraiment bien mentalement? Moi, il y a comme mille et une questions qui me viennent en tête. On parle souvent d'équilibre. Les athlètes l'ont pas vraiment, cet équilibre. Là,
moi, j'apprends à tous les jours, je ne suis pas gêné de le dire. Là. Puis quand j'ai rencontré Bruni Surin dans Marceau Soir, j'ai jasé pendant à peu près 60 minutes. Puis il m'avait parlé qu'effectivement, rendu à un certain niveau là, où tu es en train de plafonner, tu as besoin de ce genre d'équipe autour de toi comme un psychologue sportif. Puis c'est pas parce que ça va pas.
Pour s'assurer que ça continue de bien
c'est
aller.
C'est juste pour t'assurer que tu continues de progresser. Puis dans son cas à lui, l'arrivée d'un psychologue sportif dans son équipe a fait en sorte qu'il a progressé encore plus. Puis il a réussi à courir encore plus vite. Mm. Puis c'était des trucs aussi simples que quand il arrivait dans un hôtel, avant sa course, il regardait le nom des gars qui allait être de sa course, puis il disait « Ah, ben lui est dopé, ça veut dire que je vais peut-être arriver 6e, 7e, mettons. » Puis la psychologue sportive qui est arrivée dans sa vie, il a dit « Mais en quoi leurs histoires t'intéressent? Occupe-toi de ton couloir, c'est ta vie, c'est tes performances, puis c'est sûr que c'est des millisecondes, mais il avait réussi en se concentrant uniquement sur lui-même, sur sa game à lui, parce que lui, il n'était pas dopé, ben il avait réussi à progresser encore plus. »
Mais c'est que c'est une performance souvent mentale avant d'être une performance physique. De là, l'importance d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Fait que Véronique et cette personne peuvent venir nous partager un peu son expérience.
Merci beaucoup. Nous, on s'en va en musique. Quelques secondes avec Indochine, le chant des signes sur les ondes de boulevard. Vous avez des choses à nous dire? 88-971-1021. À tous un excellent lundi. C'est 12 degrés sur Québec. Les températures automnales qui s'amènent.
C'est le bonheur.
Madame Pinchot va être heureuse.
Oh là 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 là.
Elle va être heureuse. Généralement nuageux pour aujourd'hui avec des probabilités d'averse à 40%. Maximum de 16 ce soir. Cette nuit, partiellement nuageux. Minimum de 6. Demain, mardi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 18 degrés. À plus long terme, mercredi, ensoleillé, maximum de 22. Jeudi, ça se réchauffe, maximum de 23. Et vendredi, ensoleillé, maximum de 24. Donc, on va être gâtés pour une bonne partie de la semaine.
Sur la rive sud, il y a comme un gros accident en ce moment qui fait que c'est super dur de circuler sur la 20 Est. C'est une fermeture, en fait, entre le kilomètre 253 et 261, pour vous donner une idée, le Val-Alain. Le détour, c'est par la route 132, mais quand je regarde sur la carte en ce moment, mettons, entre Chemin des Îles puis un peu dépassé Taniata sur la 20 Ouest, très difficile de circuler. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021 par texto.
Audrey, on reçoit un surhomme aujourd'hui.
Oui!
Il a été propriétaire de Sushi Taxi pendant des années et des années. C'est lui qui avait mis ça en place. Je pense qu'il y avait, à la toute fin, là, avant qu'il vende, il y avait 19 restos, 350 employés. Il a été propriétaire de Bouddha Station. Là, Star, il est propriétaire de Fish Club Privé, Empire Academy. Il est professeur à l'École de l'entrepreneurship. Il est conférencier, puis il est auteur aussi d'un livre qui s'appelle 12 rounds de leadership. Il doit avoir 125 ans.
Oui, mais pour avoir fait tout ça, j'avoue que ça te prend quelqu'un avec quand même de l'expérience. Il n'y a pas si vieux que ça, faut dire.
Christian Genet est en studio avec nous autres. Salut, Christian.
Salut. Pas 125 ans, 49 en passant.
Ah,
j'ai trois vies.
Comment?
Trois vies, par exemple.
Trois vies. Avec du recul, tu te dis-tu, tabarouette, il me semble que j'en ai fait des affaires.
Avec le recul, je me dis, il s'est passé des trucs. Souvent, on se dit, c'est la fin du monde, je vais pas survivre à ça. Puis finalement, un an, deux ans, cinq ans plus tard, tu te dis, ouais, finalement, j'ai fait un gros cas de ça, mais c'était pas la fin du monde.
On avait envie de jaser aujourd'hui parce qu'on a vu la sortie de ton livre. Ça fait à peu près une semaine et demie là, que c'est sorti, si je me trompe pas. C'est un livre qui s'appelle, 12 rounds de leadership pour mettre KO le petit boss en soi. Puis le principe de ce livre-là, c'est de parler, en fait, des patrons toxiques. Il y a les boss, puis il y a les leaders, tu sais, qu'on appelle. Puis de ce que je comprends, t'as été ce mauvais patron-là et c'est ce qui t'a mené à écrire ce livre-là. Ouais. Comment ça t'as été un mauvais patron?
Dans ma jeunesse, là, quand j'ai étudié à l'université, j'ai trempé dans les bars de danseuses à l'époque. J'étais gérant d'un club de danseuses pendant 4 ans. Fait que, tu sais, j'ai trempé dans un milieu qui était toxique. Des gens qui crient, qui font des menaces physiques, psychologiques. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ben ils lèvent le ton. Ou bien même, tu sais, tout marche selon des ordres, puis ça doit être exécuté en conséquence de manière parfaite. Fait que ça a trempé en moi pendant 4 ans, cette espèce de marinade-là, tu sais. Puis quand je me suis lancé en affaires, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans, bien, je me sentais imposteur. Mes parents n'étaient pas des entrepreneurs, j'avais pas d'argent de famille, j'avais pas étudié en finance. Pour me faire une place, ça a été un réflexe dans les premiers mois, dans un milieu qui était tough, de lever le ton, de vouloir être vraiment quelqu'un qui plie jamais, qui a une grosse armure, qui est en négociation, laisse jamais la place à personne d'autre, bien ça, j'aime dire que ça m'a peut-être servi à me faire une place dans le monde de l'alimentation pendant 3-6 mois, mais ça me nuit pendant 15 ans, sincèrement. Puis c'est des réflexes que, malgré le fait que j'avais évolué, m'ont tout le temps suivi. T'sais, la rumeur de la rumeur, à travers les employés, bien c'est ce qui se déroulait.
En fait, tu as juste reproduit un modèle que toi, tu avais appris au départ dans ta jeunesse quand tu as commencé à travailler dans les bars et tout ça. Au même titre que, tu sais, moi, dans la restauration, j'ai travaillé avec des Grecs, puis j'ai travaillé avec des Italiens dans la cuisine, là. Écoute, c'était l'asile. Là.
T'a déjà tiré une poêle par la tête, genre.
pendant le rush, tout le monde se criait après. Ouais. Après le rush, tout le monde était les meilleurs amis du monde, puis ils prenaient un verre de vin avec toi et tout ça. Mais c'était une façon de faire à l'époque qui est peut-être plus adaptée à aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui. T'as-tu parti Sushi Taxi avec 500$ pour vrai?
Ouais, 500$ sur ma carte de crédit. Avec un téléphone, à peu près ça d'épais à l'époque. Je prenais des mini-annonces dans le journal Voir.
Ouais.
Puis là, j'aime dire que mon premier vrai métier, c'était d'être comédien parce que le téléphone sonnait puis je disais, attendez, je vais vérifier avec le chef.
OK, mais c'était toi.
Ouais. Là, j'allais livrer un client. Puis là, je disais, ben je vais vérifier avec notre hôtesse, elle qui place tout ça, les commandes, puis je vous rappelle. C'était pour gagner du temps parce que je retournais chez nous préparer une autre commande, puis je partais la livrer. Alors, j'ai parti une entreprise comme ça.
Oh, mon Dieu, OK, tu jouais tous les rôles, là. Tu faisais
ouais,
tout toi-même.
Oui, ouais, j'ai fait ça. Pendant tout près d'un an, jusqu'à temps que là, ben je commençais à avoir un petit revenu plus sécure.
Ouais.
Là, je me suis installé sur un premier pignon.
Puis, il y a où le moment où tu t'es comme rendu compte que d'être un petit boss de bécosse, ce que j'aime appeler, ça fonctionnerait pas?
Ça a pris quand même un moment. Là, je te dirais, la troisième année où là, je commençais à avoir peut-être 6-7 employés. Et puis, j'arrivais pas à les rentrer dans mes projets, à les inspirer, à les motiver. Puis là, je me suis mis à me poser des questions justement sur la façon dont j'interagissais avec eux autres. Puis plus tard, tu sais, c'est malgré que je m'intéressais à ça, ben j'avais pas changé tant mes processus et tout ça. Mes valeurs avaient évolué, mais c'était pas clair. J'étais pas quelqu'un qui communiquait bien, puis j'avais beaucoup, beaucoup de roulements d'employés. Ça me faisait mal, tu sais. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser à ça, à apprendre, à suivre des cours. Puis j'en ai fait un dada. Les nouvelles entreprises que j'ai créées même, j'ai créé ça en prenant ce positionnement-là, il y a beaucoup plus de leadership, ça a donné immédiatement des résultats.
Fait qu'il y a personne qui t'a rentré dedans en disant « t'es un boss de merde, c'est vraiment
ben oui,
toi qui
as pris... » Oui, plusieurs
fois,
attends un peu. Là.
Fait que ça a aidé à la réflexion,
ben
ça,
oui,
là, parce que je te trouvais très sage dans toute ta réflexion.
Je suis un gars qui a appris beaucoup par les claques à la gueule dans la vie, tu sais. Okay. Effectivement, ça, ce genre de positionnement-là, je l'ai eu souvent.
Mais t'sais. T'avais une chemise anti-balle quand on te disait « t'es un boss de merde », ça rebondissait sur toi?
J'étais un gars qui allait au travail, moi, avec un masque le matin. Je, dans ma tête, pour être entrepreneur, il fallait que tu sois un tough. Ça n'avait pas d'émotion. Les émotions, c'était à la maison. Les amis, c'était dans ta vie privée. Puis, tu sais, il y avait comme deux rôles complètement distincts jusqu'à temps qu'un jour, je me sente un peu là-dedans, un peu beaucoup mal. J'allais travailler le matin, j'ai le goût de vomir. J'ai plus envie de mettre mon masque. Le gars qui est trippant dans sa vie privée, qui prend soin de ses amis, qui est attentionné, j'avais besoin d'être cette même personne-là dans la vie de tous les jours, au travail, tu sais. Et là, je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus coexister, tu sais, deux personnalités différentes.
Tes chums, t'en rendais-tu compte de ça?
Ben non, parce que je parlais pas beaucoup du travail, puis j'avais pas d'amis de travail ou qui me côtoyaient pas à travers tout ça, là, tu sais. Puis, tu sais, je reviens sur ce que tu disais, Audrey. Tu sais, le leadership puis être patron, c'est deux choses qui sont vraiment à l'opposé. C'est pas parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe de hockey que tu es nécessairement le leader. C'est pas parce non plus que tu es le propriétaire d'une entreprise, le vice-président d'une entreprise, que tu es non plus un leader. Tu peux être un patron, mais pas un leader. T'sais, le leader, là, c'est quelqu'un que les gens aiment suivre parce qu'il prend soin d'eux, parce qu'on lui fait confiance, puis parce qu'il les guide vers un objectif commun. Fait que un leader, ça peut être une mère de famille. T'sais, que elle, l'important, c'est que tout le monde dans la famille s'épanouisse, puis c'est le bien de la famille, c'est l'unité de la famille. Ça peut être quelqu'un qui est dans une équipe de sport, ça peut être un député à l'Assemblée nationale, puis évidemment, ça peut être dans nos entreprises.
C'est une question d'attitude, en fait.
Bien, c'est une question d'attitude, de comportement. C'est des connaissances qui s'apprennent, mais surtout qui se pratiquent. Puis tu sais, c'est comme devenir parent, c'est quelque chose qui est facilement possible pour beaucoup de personnes de devenir un leader. Mais est-ce que c'est nécessairement que tout le monde a envie de ça? Non. Puis est-ce que c'est souhaitable pour tout le monde? Non plus, je pense. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend puis qui doit se mettre en pratique puis s'ajuster.
C'est une drôle de question, là, mais est-ce que tu t'es excusé? Dans le sens que j'ai l'impression que quand tu es peut-être cette personne-là qui mine une ambiance ou qui n'est pas nécessairement correct auprès de ses pairs, qui, tu sais, c'est une réputation qui te suit, surtout quand tu es entrepreneur. On dit souvent que Québec, c'est comme un grand village aussi. Tu sais. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as dû t'excuser pour être capable d'avancer puis de continuer d'être ce bon entrepreneur-là?
Tout plein de gens à qui je me suis excusé, mais pour répondre à ta question, je me suis pardonné quand j'ai compris. J'ai voulu évoluer, j'ai fait évoluer mes valeurs, mais aussi encore à toutes les semaines, je m'excuse. Parce qu'il n'y en a pas de leader parfait, puis parce que oui, je fais des erreurs, mais c'est une des bases pour créer la confiance, être capable de dire « c'est moi qui ai eu cette idée-là, tu sais, c'était pas nécessairement une bonne idée ». Où ça a mal été enligné, où le processus pour créer ça, il était mal pensé. Je suis désolé ceux qui ont perdu du temps, mais je pense si, je pense ça, on l'abandonne-tu, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire amende honorable. C'est la base, tu sais, pour créer la confiance, d'être capable de s'excuser quand ça ne va pas comme on veut. faire amende honorable, puis se reprendre, et surtout créer cette ambiance-là pour que les autres puissent le faire aussi.
C'est particulier quand on parle du leadership, parce que chez les enfants, on voit qu'il y en a qui ont ça inné.
Ouais.
Puis on ne sait pas pour quelle raison. Tu te dis, mais tu sais, même un frère, deux frères qui ont été élevés pareil, il y en a un qui va être un peu plus leader que l'autre. Souvent, c'est le plus petit. Mais tu sais, tu te dis, tabarouette, tu es dans une chambre de hockey puis tu es capable d'en identifier deux, trois, alors que ces gens-là n'ont pas été à l'université ou n'ont pas été à l'école de l'entrepreneurship. Ils sont capables de prendre la parole, sont capables
d'être rassembleurs, de
dire, ben regardez, suivez-moi, c'est par là qu'on s'en va, êtes-vous d'accord, let's go. Puis, il y en a d'autres qui, un peu comme toi, qui ont fait un parcours incroyable. Parce que, je veux dire, les entreprises que tu as eues, c'est juste hallucinant. Moi, j'étais un client régulier du Sushi Taxi. Toi, tu l'as appris sur le tard. Tu es comme revenu à la base de c'est quoi être un leader. Es-tu capable de les identifier maintenant dans toutes les entreprises qui te restent, là? Ben, qui te restent. Dans toutes les entreprises que tu as, en fait, es-tu capable de les identifier à même ton équipe?
Ah, absolument. Mais ouais. Je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours une partie qui est un peu génétique.
Ouais.
Ça se voit chez les enfants, ça se voit facilement dans le sport, même dans le milieu de travail, à même une micro-équipe ou une cellule, une genre de petite cellule, ça se voit facilement. Mais au travail aussi, là, on revient à la base. C'est qui, dans une équipe, que quand il est là, c'est tellement plus facile de travailler avec lui? C'est qui est sur la glace, que quand il embarque sur la glace, tout le monde monte de niveau? Mm. C'est qui aussi qui prend soin de tout le monde, qui pense pas juste à lui, mais tout le temps les autres en premier. Il pense à la cohésion, il pense à l'objectif final plutôt qu'à ses petites patentes. Bien, souvent, là, ça se décline comme ça, le leadership. C'est pas nécessairement, tu sais, dans nos entreprises, malheureusement, quand tu deviens bon dans ton métier, souvent, bien, l'administration va te dire, OK, bien, tu vas devenir patron. Mais là, tu vas avoir 4, 5, 10 personnes sous ta couverte qui font la job que tu faisais avant. Mais il n'y a personne qui t'a montré, tu sais, à inspirer, à enseigner, à mesurer, à questionner, à ajuster, à donner du feedback. Il n'y a personne qui t'a montré ça. C'est juste que tu étais excellent dans ton ancien travail. Puis ça nuit, tu sais, parce que les connaissances, mais surtout la dextérité d'être capable de rassembler une équipe, ça n'a aucun rapport avec avec un métier technique que tu faisais à la perfection.
Pourquoi tu penses qu'on a le besoin de tout contrôler comme humain? Parce que je pense que tout le monde a un peu ça en dedans, le principe du petit boss, tu sais. On aime quand c'est nos idées qui vont de l'avant, on aime quand on contrôle notre environnement. D'où ça vient, en fait, penses-tu?
Ben, je pense qu'on a toute une manie à contrôler un peu, beaucoup ou énormément. Moi, j'étais une personne d'ailleurs qui contrôlait énormément jusqu'à temps que j'aille certains, claques à la gueule, dont faire un accident d'hélicoptère en 2016 où je me suis rendu compte que, tu sais, finalement, les choses qu'on veut micro-contrôler, c'est pas tant important. Les choses les plus importantes dans notre vie, là, tu sais, la santé, l'amour, les rencontres, mais tout ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein? Tu sais, puis qu'est-ce qu'on veut contrôler? Pourquoi? Mais parce que le cerveau est fait comme ça pour nous protéger. Fait que de quelle manière on se protège? En essayant de tout contrôler notre environnement. Malheureusement.
La boxe t'a amené quoi dans la vie, Christian?
Bien, d'abord, du focus à mon espèce de cerveau de TDAH, de mêlé. Ensuite de ça, l'humilité. Ouais. Sincèrement, comme entrepreneur, c'était pas quelque chose que j'avais. La boxe, si t'en as pas, il y a tout le temps quelqu'un qui va te le rappeler, souvent en plein nez ou au niveau du foie, là, ça fait mal. Ça, mais aussi, justement, que plus un boxeur évolue, on pense que c'est un sport qui est un sport solitaire, mais c'est vraiment un sport d'équipe. Puis le point de vue de l'autre, qui est à l'extérieur du ring, c'est-à-dire le coach, est vachement important parce que lui, il n'est pas en plein milieu du ring à recevoir des coups. Il a une perspective. Puis il voit des choses que tu ne vois plus. Alors, la boxe, pour moi, ça m'a amené aussi à une éthique de travail. Ça m'a amené mes quatre valeurs principales dans la vie, dont être élite. Puis être élite, pour moi, c'est pas être le champion du monde. C'est être dans un mindset d'apprendre à tous les jours. Ça fait 25 ans aujourd'hui que je fais de la boxe. J'apprends encore à chaque entraînement. C'est fou. Mais quand tu es un maniaque d'apprendre, tu es curieux, je pense que c'est quelque chose qui peut te faire évoluer énormément.
Tu as un goût de redonner avec les jeunes? Vous accueillez des jeunes de la rue?
Ben, je t'avoue maintenant aussi, tu sais, avec les conférences que je donne, avec mon objectif d'écrire un livre, j'ai eu la chance de vendre des entreprises, tu sais, dans le passé. Pour moi, sentir que je suis capable de faire la différence, soit dans une équipe, auprès des jeunes, ou en coachant à l'école d'entrepreneurship de Beauce, entre autres, bien, là, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai réussi ma journée quand j'ai réussi à faire ça.
C'est fou parce que je lisais un peu sur ton histoire, puis tu en as vécu des affaires. Là, tu nous as partagé ton accident d'hélicoptère en 2016, mais je lisais que tu as perdu ton meilleur ami aussi en étant en béguant pas nécessairement dans les meilleures gangs des années 90. Est-ce qu'il faut absolument passer à travers toutes ces étapes-là pour réaliser tout ce que tu as réalisé, ou c'est un peu le but, j'imagine, avec ton livre?
Bien, je souhaite que non. D'ailleurs, mon livre a été monté comme ça. 12 petites histoires qui se calquent sur la boxe, puis qui révèle un outil facile à mettre en pratique, bien imagé pour qu'on se rappelle. Alors,
fait que c'est pas non. Trop moralisateur comme livre.
Ah, vraiment pas, au contraire. C'était l'objectif du livre, de pas faire un livre de 400 pages que, comme TDAH, entre autres. Moi, combien j'en ai acheté qui ont fini dans la bibliothèque que j'ai jamais lu. Quelque chose qui est imagé, quelque chose qui est pratique, qui donne des outils, puis qui fait vivre des émotions. Oui, il y en a qui vont lire, puis qui vont rager. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont se remettre en question. Mais je pense que ça va donner un résultat pratico-pratique qui va faire évoluer les gens.
C'est pour tout le monde? Pas juste pour
Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui se pose la question s'il pourrait être un leader au travail, dans sa cellule sportive, dans sa famille, à travers ses amis. Oui, c'est pour tout le monde, puis c'est drôle, ça vous fait rire, pleurer, vivre des émotions définitivement.
Les commentaires que tu recueilles lors de tes conférences, c'est quoi par rapport au leadership?
Merci de nous avoir partagé tel moment vulnérable. Merci, ça m'a amené à être capable de parler de mes moments moins glorieux avec mon équipe, puis ça fait en sorte que maintenant, il y a des gens qui sont capables de me remettre en question, sont capables de me contrarier, puis sont capables d'amener une idée qui est différente de la mienne, puis enfin, on a des vraies conversations. Merci pour tel outil. Dans mon livre, je parle, puis en conférence, mais les quatre coups d'un leader. Un boxeur, quand ça embarque sur le ring, là, ça se met pas à penser, j'envoie-tu un jab, faut-tu j'envoie double jab? Il y a quatre coups. Jab direct, crochet, uppercut. Fait que dans toute la vitesse d'un combat, il y a une seule chose, il faut que ça soit instinctif. Bien, un leader, il faut que ça soit pareil. J'amène les leaders à cibler leurs quatre coups de leader, des qualités essentielles. Moi, j'ai défini les miennes comme tac, l'empathie, la vulnérabilité et être rebelle. Pour moi, ces quatre choses-là sont importantes, puis je les décline au quotidien. Bien, on a parlé de mon parcours un peu dans mes débuts. Tu comprendras que le tac, c'était pas trop quelque chose qui était inné en moi. Hein? Ben, même chose quand tu commences à boxer. Le jab, c'est souvent la main contraire. C'est quelque chose qui est tough, qui est pas naturel, qui revient pas vite puis qui peut te nuire. Mais à force de le pratiquer, en envoyer 800 à 1000 par entraînement, ben, après une couple de semaines, une couple de mois, tu deviens plus confortable puis ça devient un réflexe. Ben, c'est pareil.
Tu parlais du côté rebelle. En quoi il est positif, le côté rebelle? Parce que bien souvent, dans des entreprises, ce qu'on se fait dire, c'est que si tu es un peu trop rebelle, si tu remets l'ordre établi en question, ben ça se peut que tu te fasses taper ses doigts.
Bien, pour moi, être rebelle, c'est justement avoir toujours un sac de solutions qui est plus gros que la quantité de problèmes que tu peux frapper. Être game d'essayer un chemin que personne n'a emprunté, puis de dire, moi, cette solution-là, là, je pense que je suis capable. Puis let's go, on va l'essayer, on va le créer. Il n'y a personne qui a réussi, mais on va l'essayer. Être capable d'assumer des idées, d'avoir de la créativité, ça, pour moi, c'est être rebelle. Ça n'a aucun rapport avec avoir les cheveux dans les airs bleus ou être un punk au Carré d'Auville.
Ou pas respecter
Ou passer sa rouge en auto.
Je pense que c'est tellement important aujourd'hui, surtout dans l'ère dans laquelle on est. Moi, je me souviens, plus jeune, mes patrons étaient des boss. Puis t'avais un respect pour eux parce que tu voulais pas mal faire, t'avais peur de tu pilles sur des œufs finalement constamment. Mais j'ai l'impression que la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail a un besoin de créativité, a un besoin de sentiment de gang, a un besoin de respect commun, justement. T'sais, pas trop de hiérarchie, mais plus d'un travail d'équipe. Puis c'est peut-être là que le leader est encore plus important qu'il l'a jamais été.
Bien, tu sais, Yannick en a glissé un mot tout à l'heure, et toi aussi, d'entrée de jeu. Je pense que la société a évolué. Les nouvelles générations pousse comme moi, j'ai poussé la génération des baby-boomers à l'époque, puis on était un peu, en contradiction. Mais maintenant, les jeunes ont besoin d'être reconnus, ont besoin de sentir qu'ils font une différence dans un projet qui est global, puis que leur rapport amène quelque chose au chaînon de la réussite. Ils ont besoin de sentir qu'ils font une différence, puis ça, à tous les jours. Parce que ultimement, le salaire, là, c'est une fois par année ou une fois ou deux ans que tu as une revue salariale puis des nouvelles conditions ou pas. Après ça, là, ce qui te rend heureux au travail, c'est pas ça. Tu oublies vite ça. Là. Tu le vois sur ton talon de paye le jeudi, mais c'est vraiment les interactions avec les autres, être capable de sentir que tu peux amener quelque chose de différent. La créativité, les questions que tu as, les idées que tu as sont écoutées. L'important, c'est pas d'être d'accord, mais c'est d'être capable d'amener ton point. Alors ça, je pense que ça fait une grosse différence dans les milieux de travail présentement.
Montrer tes faiblesses à tes employés, c'est-tu un défaut? Ça prend beaucoup d'humilité, mais en même temps, quand les employés te reprochent quelque chose, ils vont dire « Ah ouais, mais il nous l'avait dit qu'il était comme ça. Ouais. » Peut-être qu'on pourrait le prendre peut-être d'une autre façon ou ajuster le tir de telle ou telle façon.
Bien, je pense qu'il y a un côté qui est nécessaire. Il n'y a personne qui est un super-héros dans la vie. Là. On aimerait tous ça, avoir un pouvoir
Mes
magique.
Enfants me le disent souvent.
Bien, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, mais il n'y a personne qui l'est. Si tu tannant d'être à côté de quelqu'un qui n'est pas à te demander de l'aide, qui est tout le temps parfait, qui est tout le temps, tu sais, on top of things, c'est tannant. Mais aussi, c'est la base pour être capable de créer une relation avec quelqu'un, de montrer son imperfection, pas pour s'en débarrasser, pour s'excuser de dire « Je vous l'ai dit que je suis impatient à cette heure. Vivez avec ça. » Non. Plus pour dire « Je t'avertis, Yannick, ça m'arrive d'être impatient. » Si jamais tu subis ça, là, tu n'as pas toi à accepter ça. Prends la peine de me le dire durant notre conversation. Hey, « Christian, t'es-tu pressé? Hey, Christian, je te sens un peu impatient. Tu as une mauvaise journée peut-être. On peut se reprendre. Là. Moi, je ne suis pas pressé. » Mais ça, là, c'est crucial, l'espèce de différence entre s'en débarrasser pour s'excuser ou utiliser à bon escient pour faire en sorte de contagier puis de collager l'équipe, justement. T'sais. Mais aussi, être capable d'amener un sentiment dans l'équipe aussi qu'il n'y a personne d'autre de parfait. Fait que je pense que ça vient du leader d'être capable de dire « Bien ça, je l'ai manqué, mais si tu es capable de dessiner cette espèce de terrain de jeu-là, les autres vont être aussi capables de reconnaître leur erreur. » Puis Dieu sait que c'est important.
Christian, tu fais pas les choses à moitié. Tu t'es dit, non, moi, je veux pas d'éditeur. Je vais m'éditer moi-même. Ouais. On peut pas acheter ton livre dans les grandes librairies.
Non. C'est probablement une autre des déclinaisons de mon côté rebelle.
Ouais.
Je n'avais pas envie de changer le langage coloré, les anglicismes qu'il y avait là-dedans, non plus de changer la facture graphique qui je voulais différente ou les analogies à la boxe. Je l'ai auto-publié sur Amazon. Fait que en allant sur Amazon, en faisant 12 rounds de leadership, vous allez le trouver ou sur mon site web, Rebel, R-E-B-E-L, leadership, L-E-A-D-E-R-S-H-I-P, en un mot, .ca. Vous allez voir ça.
Fish Club privé, c'est quoi ça?
C'est mon nouveau dada de sushi.
T'as jamais décroché des sushis?
Ben, la réponse, c'est oui, oui. Mais ma clause de non-concurrence avec les sushis s'est éteinte il y a deux étés. Puis à ce moment-là, mon ancienne directrice générale de Bouddha Station était disponible, cherchait un nouveau projet. C'est une femme extraordinaire. J'avais encore des locaux de disponibles. Puis mon amour des sushis comme client n'a pas changé. Puis je voulais amener deux affaires. Un produit vraiment différent, beaucoup plus raffiné, avec du poisson frais. Au Québec, on est deux sushi-bars au Québec. Qui utilise 90 % de poissons frais. Le reste, c'est du congelé.
Mais ça ne doit pas être facile.
C'est difficile. Ça nous amène à la MAPAC qui vient chez nous faire des tests en laboratoire et tout ça. C'est un chemin difficile.
Ouais, puis quand
c'est un chemin rebelle, right?
Quand ils arrivent chez vous, la MAPAC, il faut qu'ils justifient leur travail. Fait qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose.
Bien là, c'est le laboratoire qui décide. Hein? Fait que c'est plus eux autres. Ils prennent les échantillons et amènent ça en laboratoire. C'est que le laboratoire talks.
Okay.
Puis la deuxième chose, je voulais enfin être capable d'amener un milieu de travail où ce que les chefs, les concierges qui travaillent pour nous puissent en faire un métier pour vrai, avec un horaire qui fait du sens, avec une prévisibilité, hein?
Oui, c'était là.
sur leur horaire, sur leur salaire, sur leurs vacances, puis être capable d'avoir leur soir, leur week-end pour leur famille, bien ça, pour moi, c'était mes deux objectifs, ouais. Tu sais, de faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai parti ça, puis... vraiment, c'est un projet qui va super bien.
Est-ce que tu découvres encore de nouvelles façons de faire des sushis, de nouveaux produits constamment? C'est-tu, parce que les sushis, on s'entend, là, je veux dire, quand c'est bien fait, tu dis « wow, c'est exceptionnel », mais à un moment donné, tu fais le tour, là.
Ouais, ben tu sais, ta question est bonne dans le sens où, tu sais, si on est 8 autour de la table, puis tout le monde a un livre de recettes de Ricardo avec les mêmes ingrédients, puis on a tout comme tâche de faire un gâteau carotte,
ouais.
Autour de la table, il va y avoir 8 gâteaux carottes différents. On n'a plus ben des nouvelles recettes puis des nouveaux produits, on les connaît toutes. C'est la façon de faire, l'amour, les quantités, le mariage de tout ça, puis la technique d'un chef qui met son doigté magique, c'est surtout ça, là.
Puis pour que le riz soit parfait, là, c'est quoi le truc, là?
Ben le truc, c'est de le rincer, c'est d'être patient, c'est vraiment ça. Fait que là, ta blonde fait des sushis, Yannick, c'est
non,
ça que t'es
déjà... faire, ça marche jamais.
Ouais, ben, un, faut que tu le rinces vraiment, puis après ça, faut que tu prennes le temps de le rebrasser quand il tempère.
OK. Pour les gens qui veulent avoir accès à toi, Christian, ils communiquent comment avec toi pour des conférences?
Ben, t'es gentil de poser la question sur mon site web Rebelle Leadership en un mot. Ils vont me trouver facilement, puis ça va être facile qu'on jase. Puis, ben au plaisir peut-être même de rencontrer l'équipe de Leclerc, un de ces quatre.
Ben oui, bon, on se le souhaite. Sinon, 12 rounds de leadership, le livre est disponible sur Amazon.
C'est disponible sur Amazon facilement.
Un gros merci d'être passé.
Merci vous vraiment. Autres,
bonne rentrée de radio. Merci de l'invitation. Merci.
Christian Genet, qui est boxeur, entrepreneur, conférencier, l'ancien propriétaire des Sushi Taxi de Bouddha Station, maintenant propriétaire de Fish Club privé, d'Empire Academy, professeur à l'école de l'entrepreneurship de Beauce, un gars aux multiples
gros talents. Gros CV, hein?
Oui, ça rentre tout sur une carte.
Ça fait difficile.
C'est pour ça que j'en ai pas.
10h52, on vient. Marceau, le midi. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Actuellement, comment ça se passe?
Bien, il y a un accident qui est arrivé un peu plus tôt sur la 20 direction ouest. Vous rappelez que c'est encore congestionné entre Chemin des Îles et Taniata. Si vous pouvez prendre... c'est par la 138 qu'on disait le détour, je suis sûre de ne pas dire de niaiserie. Oui, par la route 132, pardon, 138, c'est de mon bord. Fait que par la route 132, si jamais vous êtes dans le coin, parce que pour l'instant, c'est encore super congestionné, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021 texto.
Précisément 11h, on vous en parlait en début de show tout à l'heure, qu'on allait parler de psychologie du sport. Moi, j'avais découvert qu'il y avait des psychologues sportifs qui étaient là quand ça allait bien pour les athlètes. C'est Bruni Surin qui m'avait appris ça lors d'une émission dans Marceau Soir, parce que j'étais persuadé que les athlètes faisaient appel à des psychologues quand ça allait vraiment pas.
Ben c'est le même dans le quotidien aussi. Je vous ai l'impression que tu consultes quand ouais. Tu es rendu au fond du baril. Là.
Mais non, parce que tu peux consulter aussi juste pour tes performances en tant qu'entrepreneur et tout ça, confirmer des choses que tu as en toi, des pensées et tout ça pour t'aider à progresser. C'est pas tout le temps des gens en dépression qui consultent les psychologues. Moi, malheureusement, je pensais que c'était ça.
Mais non, mais c'est à ça que ça sert, ces entrevues-là. Bienvenue dans l'Open Mic!
Exact! Donc, on a le plaisir de rencontrer Véronique Boudreau, qui est docteur en psychologie. Bonjour, Véronique!
Bonjour!
Merci d'avoir accepté l'entrevue. Tu reviens tout juste des Jeux paralympiques où tu as accompagné les athlètes. Quelle expérience tu as eue là-bas?
C'était vraiment une expérience qui m'a transformée, je pense, comme personne, mais aussi comme psychologue. Ça a été vraiment unique là, d'avoir la chance de faire partie, en fait, là, de la délégation canadienne parce que, oui, j'allais apporter du soutien, du support psychologique aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs puis au personnel. Mais en fait, je faisais partie moi-même de la délégation comme partisane. Je passais mes journées dans le village avec l'équipe, donc c'était vraiment une expérience unique là, que j'ai vécue là-bas.
Véronique, il faut dire que tu es psychologue spécialisée en sport, tu es consultante en performance mentale certifiée haute performance. Y a-t-il une différence entre la psychologie, je vais appeler régulière, et l'approche dans le sport?
Oui, ben en fait, déjà, tu as nommé deux professions différentes normalement. Donc, le psychologue qui spécialisé en sport versus le consultant en performance mentale, normalement, c'est deux professions qui sont différentes. Quand on parle du psychologue spécialisé en sport, généralement, c'est quelqu'un qui a vraiment une formation de psychologue clinicien, qui a une expertise un petit peu plus poussée dans le sport, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a des enjeux spécifiques à la clientèle sportive, mais aussi qu'il y a une approche peut-être plus particulière là, quand vient de faire des thérapies avec cette clientèle-là. Puis quand on parle des consultants en performance mentale certifiés, là, on pense vraiment aux préparateurs mentaux, donc vraiment des professionnels qui vont accompagner les athlètes là, qui vont faire partie comme de l'équipe scientifique là, derrière l'athlète pour préparer l'athlète mentalement à performer, donc en travaillant les habiletés de performance mentale comme la gestion du stress, la concentration, la pleine conscience. Donc, c'est vraiment deux professions différentes. Moi, j'ai la chance d'avoir fait les deux formations, donc je peux faire les deux, mais généralement, quand je travaille avec un athlète ou une équipe, ben, je vais vraiment m'en tenir à un ou l'autre de ces deux mandats-là pour ne pas mêler l'aspect santé mentale de l'aspect performance mentale.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez nos athlètes de haute performance comme questionnement?
Bien, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect du stress là, de gérer un peu la pression de performer. T'sais, surtout si on pense à des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, il y a tellement de travail, tellement de sacrifices, tellement de travail qui a été mis pour se rendre là, que là, c'est le moment de briller. Et c'est l'opportunité de faire ressortir tout ce travail-là, puis souvent, ben, il y a une seule chance. Donc, c'est stressant. Il y a énormément d'enjeux qui sont liés à ça. Donc, il y a beaucoup, c'est nécessaire, là. Il y a de l'anxiété, il y a de la fébrilité, il y a du stress. Puis, ce qui est challengeant, le défi, c'est de rester concentré. Donc, de garder le focus malgré toutes les distractions, puis l'importance que ces compétitions-là ont pour l'athlète à ce moment précis. Donc, c'est vraiment de garder son focus, être capable d'être dans le moment présent, de faire le travail au moment où ça compte, alors qu'il y a tous ces enjeux-là, puis le stress qui vient avec.
Est-ce que c'est réellement sain à la base d'être un athlète de haut niveau, Véronique?
Excellente question. Je pense que ça peut l'être, mais c'est certain que c'est une intensité qui est unique, là. Les exigences sont tellement grandes que c'est vrai qu'on peut penser peut-être que ça peut être malsain, mais en même temps, si on a le soutien, l'encadrement qui est nécessaire pour soutenir l'athlète, pour l'accompagner, puis s'assurer aussi qu'il y a un équilibre, cet équilibre-là, c'est certain qu'il est difficile à atteindre.
Bien,
Il y a des
c'est ça.
périodes où c'est presque impossible. Mais je pense que si on soutient bien, puis qu'on offre l'encadrement, puis des ressources, puis qu'on accompagne aussi l'athlète là, à travers chacune des transitions, on peut faire en sorte que ce soit sain. Mais effectivement, il y a certaines cultures ou certains environnements sportifs qui, je dirais, favorisent peut-être pas là, le fait que ce soit sain pour les athlètes.
Mais c'est qu'on les regarde puis on se dit ils travaillent tellement fort, ils s'entraînent tellement fort pour un moment, tu sais, aux 4 ans, bon, dans le cas, mettons, des Olympiques, c'est comme s'il n'y avait pas d'équilibre de vie, tu sais, puis on dirait que c'est ce qu'on prône dans la santé mentale au niveau de la simple société, je vais l'appeler comme ça, là. Comment tu dirais que la santé mentale de nos athlètes est en général?
C'est sûr qu'elle est mise au défi, là, la santé mentale des athlètes, parce que ben, c'est ça, tout le stress, la pression, les exigences qui viennent avec la carrière d'un athlète font en sorte que ben, c'est ça, à un moment donné, l'athlète peut se retrouver fragilisé ou va faire face à des enjeux qui vont être difficiles. Si on pense juste aux Jeux, il y en a qui ont des familles, là, des athlètes, puis là, ils doivent faire des sacrifices ou se séparer de leur famille pendant un certain nombre de temps. Donc, leur soutien privilégié et pas présent avec eux la plupart du temps dans l'année. Donc, juste ça, c'est fragilisant pour les athlètes. En même temps, ce qu'on se rend compte avec les années puis avec les recherches, c'est que une bonne santé mentale, ben, c'est un déterminant de la performance des athlètes. Je pense que dans les mythes qu'on entend dans le sport de performance, là, qui peut faire en sorte que des fois, on a l'impression que c'est malsain, c'est que on voit la performance et le bien-être comme deux choses qui vont pas ensemble. C'est comme si c'est l'un ou c'est l'autre. Puis de plus en plus, avec les témoignages qu'on a eus de certains athlètes dans les médias, on s'aperçoit que au contraire, si on veut arriver à amener un athlète à performer son plein potentiel, ben, il faut nécessairement s'occuper de sa santé mentale. L'un va avec l'autre. Donc ça, c'est des enjeux, des mythes en fait qu'on essaie de travailler parce qu'on s'aperçoit que c'est nécessaire de se préoccuper de l'athlète de manière holistique, là, si on veut qu'il performe bien.
J'ai eu une collègue de travail pendant des années qui a été une athlète olympique, Martine Albert, qui a fait du biathlon. Je me permets de t'en jaser parce qu'elle nous l'avait mentionné en ondes. À quel point être un athlète olympique, ça doit demander une discipline extrêmement rigoureuse. Puis tu deviens qu'à te sentir coupable si jamais, je sais pas, moi, tu prends un dessert.
C'est vrai pareil, là, mais oui.
Elle trouvait ça extrêmement compliqué, là, tu sais, juste de dire non à un dessert, mais en même temps, les autres disent, ben ouais, mais c'est juste un dessert, c'est pas plus grave que ça. Mais moi, c'est son après-carrière qui m'a plus intéressé parce qu'elle était tellement tout le temps encadrée par des spécialistes que le jour où le spotlight s'est éteint, du jour au lendemain, elle était livrée à elle-même. Puis mentalement, ça a été un choc, là.
Mais oui.
Elle était tellement encadrée. Son entraîneur était là. Ses collègues étaient là. C'est une peur, ça, de nos athlètes, en général, de se ramasser tout seul du jour au lendemain quand leur carrière est terminée?
Bien, définitivement, là. C'est certain que c'est une anticipation que certains ont parce que, ben c'est... Effectivement, comme tu le nommes, ça peut être... déstabilisant là, de penser que du jour au lendemain, on se retrouve un peu. Parfois, ils vont rapporter un sentiment de se jeter dans le vide. Là. C'est comme si ça, toute la routine, la discipline, la rigueur du quotidien, ben là, il y a comme beaucoup d'inconnus là, qui arrivent quand on sort. Puis ça, on le sait, là, c'est vraiment important de préparer cette transition-là. Maintenant, heureusement, au Canada puis au Québec, on a un programme qui s'appelle le programme Plan de match. Qui sert vraiment à accompagner les athlètes dans les transitions. Donc, il y a des ateliers qui se donnent, il y a des services de conseillers d'orientation spécialisés en sport. Il y a toutes sortes de ressources maintenant qui sont mises à la disposition des athlètes pour justement préparer cette après-carrière. Tu as nommé l'aspect de la nutrition, c'est un gros aspect nécessairement pour plein d'athlètes dans beaucoup de sports. T'sais, l'alimentation, c'est tellement un aspect qui est central, là, comme le repos, comme l'entraînement. Donc, souvent, c'est vraiment très, très régulé. Puis là, ben des fois, les athlètes, effectivement, ils se retrouvent avec pas nécessairement de routine ou de ils n'ont plus nécessairement de règles à suivre. Fait que ça peut effectivement être déstabilisant. Puis ben ça peut, dans certains cas, mener au développement de troubles des conduites alimentaires. Donc, il faut vraiment être attentif à ça, puis bien préparer l'athlète aux transitions qui vont venir, puis de voir bien, comment on peut les soutenir puis leur offrir des ressources là, pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là qu'ils vont vivre une fois leur carrière sportive terminée.
Véronique, en passant, on parle avec Véronique Boudreau qui est en psychologie du sport, qui est aux Paralympiques cette année. Est-ce que... Ben, en fait, je pense que la pratique a changé. Je pense qu'il y a un avant puis un après. Maintenant, c'est pas mal moins tabou de parler de santé mentale. Carey Price est sorti une couple d'années pour mettre un genou à terre. Ça a laissé place à d'autres athlètes qui ont décidé de pouvoir eux aussi peut-être se donner un break avant d'éclater. Mais dans le concret, parce qu'on n'arrête pas de parler de solutions puis d'approches, comment elle a changé cette approche-là dans ton travail?
J'ai été fascinée en fait de voir justement durant mon expérience aux Jeux paralympiques une anticipation que j'avais parce que c'était ma première expérience moi-même d'aller accompagner les athlètes, les entraîneurs. Je me demandais si les gens allaient être gênés de venir me parler ou d'être dans ma présence parce que c'était clair que j'étais psychologue et que mon rôle c'était de soutenir la santé mentale. Puis j'ai vraiment été contente de constater que les gens, ils semblaient pas, en tout cas, craindre ma présence. Au contraire, ils m'ont vraiment bien intégrée dans l'équipe. J'arrivais à la cafétéria à prendre mon repas. Les équipes m'invitaient à manger avec eux. Même des fois, les athlètes qui me demandaient une consultation, ben, étaient pas gênés qu'on se retrouve tout simplement dans le hall là, de notre résidence canadienne.
Oh, ouais, hein.
Alors qu'ils étaient sous les regards des autres athlètes. Donc, je pense vraiment qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Puis, tu sais, c'est certain aussi que j'ai constaté des différences entre mon rôle durant les Jeux versus le rôle d'un psychologue qui va travailler dans son bureau. C'est-à-dire que là, je faisais partie de l'équipe. Il y a une certaine... tu sais, fallait moi aussi que je me dévoile un petit peu à mes athlètes. Donc, que je sois pas trop hermétique par rapport à ma personne parce que si je voulais créer ces liens-là et ces connexions-là, ben, il fallait moi aussi que je me montre... moi-même plus authentique, ben en fait authentique dans ces relations-là, puis je pense que ça créait cette facilité peut-être d'entrer en contact, puis le fait qu'il y avait moins de stigmas et de tabous entourés à mon rôle là-bas.
Ces gens-là ont des disciplines sportives qui s'apparentent aux gens qui ont tous leurs membres puis toute leur tête. Est-ce qu'ils se mettent une pression supplémentaire, justement, parce qu'ils ont comme toujours voulu être meilleurs que tout le monde en se disant « Moi, je vais leur montrer, je suis handicapé, il manque deux jambes, il manque un bras, mais je vais leur montrer que c'est quand même moi le plus vite à nage. » Y a-t-il une pression supplémentaire que ces gens se mettent sur les épaules?
Je pense qu'il faut faire, tu sais, je ne généraliserai pas à ce niveau-là. Peut-être certains athlètes, oui, c'est une manière pour eux de briller en quelque sorte ou de peut-être passer par-dessus des épreuves difficiles ou des tabous qu'ils ont rencontrés ou tu sais, de montrer que malgré les obstacles qui ont été mis dans leur vie,
ouais.
Ils sont capables d'accomplir des performances extraordinaires, clairement. Moi, ce que je peux remarquer en commun chez tous ces athlètes-là, c'est la résilience incroyable que j'ai pu observer. Parce que oui, effectivement, il y a certains de ces athlètes-là qui sont nés avec une incapacité acquise. En fait, sont nés avec l'incapacité, d'autres l'ont acquise, d'autres, c'est des conditions qui sont dégénératives. Donc, ils ont tous un bagage, une histoire de vie qui est différente. Mais la résilience, c'était vraiment un facteur commun chez toutes ces personnes-là avec toute l'histoire, le bagage derrière eux. Puis clairement, moi, je pense que c'est un facteur qui font, c'est que justement, ils ont l'expérience de relever des défis, de traverser des obstacles. Puis clairement, ils le mettaient en scène durant les compétitions. On le voyait, c'était vraiment clairement observable.
Ah, puis c'est de voir leur discipline. Moi, j'ai regardé deux disciplines aux Jeux paralympiques. J'ai regardé la compétition de natation où j'ai vu un gars qui restait pratiquement juste un petit mognon de jambes. Il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de jambes, sauf peut-être un petit mognon. Puis il allait probablement plus vite que moi avec mes quatre membres. Puis après ça, j'ai regardé l'autre discipline, c'était le tir à l'arc. Donc la jeune fille était exceptionnelle, elle a tiré carrément bullseye. Elle était là avec ses pieds.
Ah, c'est capoté.
Elle était là avec ses pieds, puis je pense qu'il y avait comme une petite corde ou la bouche, là. Elle tirait sa corde, puis là, ça déclenchait l'arc, puis ça arrivait carrément bullseye.
Mais ils ont des capacités qu'on n'a pas parce qu'ils apprennent à faire autrement. T'sais.
Exact, exact.
Ça me fait capoter.
Mais c'est exceptionnel à voir. Ouais. Fait que je me disais, tu sais, ils savent qu'eux, ils vont démontrer comme à quel point ils sont maîtres de leur art, de leur discipline, mais c'est la peur de te planter.
Mm.
Tu sais, quand tu dis, hey, moi, j'ai été au primaire, au secondaire, j'étais tout le temps différent, je me faisais tout le temps rejeter, puis là, j'arrive aux Jeux paralympiques, c'est time to shine.
C'est capoté bien raide. Véronique, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience comme professionnelle avec les Paralympiques?
Mon Dieu, c'est une très grosse question.
Elle vient juste d'en revenir, tu sais.
Ouais, ben en fait, tu sais, j'ai beaucoup d'apprentissage que je retiens, c'est sûr, de cette expérience-là, mais. Ben, en fait, moi, je retiens que ce sont des athlètes au même titre que tout autre athlète là, qui compétitionne sans incapacité. Là. C'est vraiment le même niveau de performance, le même niveau de travail, la même science derrière. Les enjeux sont aussi importants. Donc, moi, c'est vraiment ça que je retiens. Ce sont de grands athlètes. C'est tout ce que je peut-être montre. Le mot que j'aurais vraiment à dire, c'est ça. Ce sont de grands athlètes. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence en termes de la science derrière l'importance des compétitions, l'importance qui était donnée à ces performances-là. Puis c'est ce que j'ai observé, puis c'est ce que j'ai vécu moi-même.
Y a-t-il quelque chose que tu veux réappliquer maintenant? Dans le sens, ça me sonne très personnel, mais au niveau professionnel, est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu ramènes avec toi?
Bien, c'est certain que cette valeur-là, je vais tenter de la partager ou en tout cas de la démontrer dans mon travail. Je suis aussi chercheuse, professeure à l'Université de Sherbrooke. Donc, dans mes recherches, il n'y a pas assez de recherche qui se fait dans le domaine du parasport. On ne fait pas un assez bon travail aussi au Québec pour recruter les athlètes en parasport, pour les soutenir. Il y a certainement une inéquité dans les ressources qu'on retrouve dans le parasport. Donc, moi, je vais travailler fort pour... travailler sur ces enjeux-là, puis rétablir cette équité-là, puis améliorer le recrutement, le soutien, puis faire briller davantage le sport paralympique et le sport para là, pour tous les niveaux de développement.
Mmh. Hey, Véronique Boudreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Véronique Boudreau est psychologue spécialisée en sport, consultante en performance mentale, aussi certifiée haute performance. C'était vraiment intéressant d'en apprendre sur ce que tu fais dans ta vie de tous les jours ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, Véronique. Bye-bye. Hey, c'est donc bien intéressant, ça.
Je trouve ça capoté. Mais ouais. Ça dit toute qu'une expérience personnelle. Puis, tu sais, elle nous l'a partagé, mais je veux dire, c'est quelque chose de travailler avec des athlètes qui peuvent pousser leur corps à l'extrême parce qu'ils ont toutes les capacités de base pour le faire, mais d'être au sein des Paralympiques, ça a dû être personnellement et professionnellement quelque chose d'assez particulier, là, tu sais, humainement aussi. Mmh. Là, je suis quasiment jaloux. J'aurais pu dire ça, être un petit oiseau.
La force de caractère de ces gens-là aux Paralympiques. C'est épouvantable. La résilience de ces gens-là, ouais. c'est juste incroyable. Puis en savoir plus sur le métier de psychologue du sport, c'est très intéressant.
Bien, je trouve ça hot parce qu'on a beaucoup évolué à ce niveau. Là, puis j'ai l'impression qu'on s'en va dans le bon sens plus le temps avance, ce qui est une bonne nouvelle. Tu sais, demain, ça va être la journée de la prévention du suicide. Chaque année, tout le monde la souligne, tout le monde partage ses histoires personnelles. Il y a tellement plus de gens qu'on pense qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que de voir qu'on prend soin de ces gens-là, même au niveau du sport, qui est qui est un domaine, en fait, où tu n'as pas vraiment de vie. Là. Moi, c'est toujours ce qui me fascine avec les athlètes. Là. Ils n'en ont pas, eux autres, de petits quotidiens tranquilles. Là, tu sais, où ils peuvent prendre une petite coupe de vino le jeudi soir, mettons. Là. C'est très poussé comme environnement.
Voilà. Et on change totalement de sujet. 11h18, j'ai des petites questions à vous poser. En fait, j'en ai une. 418-971-1021. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose, toi, Audrey?
Si j'ai déjà volé quelque chose.
Ouais. Et vous autres, là, répondez-moi, qu'est-ce que vous avez déjà volé?
Bien, très, très jeune, je pense que j'étais partie avec une affaire, tu sais, d'un comptoir à caisse, le genre de bord de chocolat ou de la gomme ou je sais pas quoi. Puis quand ma mère s'en est rendue compte, il a fallu que j'aille reporter ce que j'avais pris puis que je m'excuse pour comprendre que ce qui était dans le magasin, ça m'appartenait pas puis c'était payé en quelque
T'avais
sorte.
T'avais quel âge?
T'sais. Ah, j'étais très, très jeune, là, genre 4-5 ans, là, vraiment très, très jeune.
Tu t'en souviens encore?
Bien, ma mère me l'a tellement répété. Puis tu sais, des fois, tu as des petits flashs. Là.
Ouais. Fait que tu t'es remis des images en tête.
Mais moi, Oui, mais sinon, j'ai jamais après ça. Non, mais moi, je déplaçais pas beaucoup d'heures. Hein. Fait que non, j'ai jamais volé. Okay. Toi, oui?
Oui, oui.
Arrête! Hey, oui. Dis oui comme si c'était une affaire de...
Ici, des crayons. Je prends tout le temps le crayon sur le bureau à Jimmy.
Ah, mon Dieu!
Quand je cherche un crayon... Là,
on est une coupe de voleurs. Assez,
je vois tout le... Ah, ben tiens! Finalement, c'est du vol.
Mais non, mais c'est de l'emprunt. Oui, c'est du vol quand tu le remets pas.
Mais moi, c'est juste pour l'énerver. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau crayon, je m'en vais sur son bureau, je prends son crayon, je le mets sur mon bureau, je le fais disparaître. Fait qu'il se pose toujours des questions à savoir qui a volé mon crayon, mais c'est moi. Fait que j'ai volé son crayon. Qu'est-ce que j'ai déjà volé? J'ai volé des bonbons à mes enfants pour l'Halloween.
Ah, ben oui, mais là...
J'ai pigé dans le sac.
Mais ça fait pas de mal à personne, ces affaires-là.
J'ai-tu déjà volé... J'ai déjà participé à un vol. Sur Woolco, je pense que c'était dans les années...
L'ancien Walmart.
80, ouais. j'étais pas vieux à l'époque. Puis à l'école où on allait, il y avait une table de ping-pong. Et on n'avait pas, nous autres, de palette de ping-pong. Tu sais, la raquette, ouais, là? Ouais. On n'avait pas ça. Fait qu'on avait été se promener une gang de jeunes au Woolco, à Beauport. Et il y en avait deux, trois qui avaient pigé là, dans les raquettes de ping-pong puis s'étaient mis ça dans les vêtements. Puis il y avait des détectives de plancher à l'époque. Et nous autres, on est rentrés en gang, on est sortis en gang. Fait que quand on est sortis en gang, moi, je le savais qu'ils n'avaient volé, mais je n'étais pas assez brave pour en voler. Fait que j'ai juste accompagné mes amis en sortant. Puis là, les détectives de plancher sont sortis puis ont commencé à courir après nous autres.
Ben, je sais pas.
Écoute, je ressemblais à Ben Johnson en 1988. Je pense que j'ai battu le record du 100 mètres.
Arrête donc,
j'avais
toi!
J'avais la peur de ma vie. Ah oh, oui!
Au lieu de juste... Ah oh, ouais, tu t'es sauvé!
Je me suis sauvé puis je me dis, je vais me faire tuer à la maison. C'est
fait
sûr.
Vous êtes, vous êtes pas fait prendre, finalement.
Les gars ont stoolé. Tous les gars qui étaient dans la place, des snitchs.
Ben oui,
ils ont
c'est
stoolé,
ça.
Puis ma mère a eu un appel à la maison, effectivement, puis je m'étais fait engueuler. On avait fouillé mon sac, on n'avait pas trouvé la fameuse palette.
Parce que toi, t'avais rien pris. Ping-pong.
J'avais rien pris. Mais je m'étais fait engueuler pareil parce que j'étais avec des voleurs, puis je n'avais rien dit.
T'étais témoin.
Là, j'avais dit, mais là, si tu veux que je fasse. Fait que là, m'avait dit, ben, tu sacs ton camp.
Puis tu dis à tes chums que c'est pas une bonne idée.
Ben oui, bien ça. Tu sacs ton camp. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le vol à l'étalage a augmenté en un an. Donne-moi le pourcentage. Est-ce que c'est...
Ben là, attends.
C'est, en c'est, un
avec,
an.
Avec les conditions actuelles, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui se ramasse dans la rue, que le portefeuille fait pitié, ben là, j'ai goût de te dire que ça a sûrement augmenté beaucoup. Un genre de quoi? 30 % genre?
Toi, tu dirais une augmentation de 30 %. Moi, je trouve ça très, très élevé. Là. Augmentation du vol à l'étalage de 30 %, je trouve ça très élevé. Je t'aurais dit à peu près 5 ou 10 parce que...
C'est pas hey,
parce
mon que Dieu, ben moi, je voyais ça gros.
Mais c'est pas parce que t'es pauvre que tu voles. Tu sais, il y a des gens qui sont riches et extrêmement riches qui volent les gens.
Totalement. Mais dans des magasins, souvent, je m'excuse, Yann, mais la moyenne, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Là.
Moi, c'est pas ce que ce que j'ai vu autour de moi.
Pour vrai de vrai?
La plupart des crosseurs et des crosseuses... C'est des gens qui sont pour la plupart dans la classe moyenne. J'en suis un!
Voyons donc!
J'en suis un, j'ai fait passer ma préfable de 17 ans pour un enfant de 12 ans au Cinéplex Odéon, payer moins
mais
cher.
Mais là, dans ce sens-là, OK, j'en suis je un, comprends. Là, non, mais ça, OK, dans ce sens-là, je comprends, mais moi, je parle de matériel dans les magasins. T'sais, je me suis sauvée une fois qu'une paire de bobettes là, chez la Senza, je me suis rendu compte que oh je l'avais ben, dans les mains, je suis retournée à porter.
Ça sort!
Mais je suis retournée à porter! Dans le sens que...
Donc, toi, tu dis 30 %. Moi, j'aurais dit entre 5 et 10 %.
C'est combien?
J'ai été flabbergasté. Les chiffres nous proviennent du Conseil canadien du commerce de détail. C'est 41 % d'augmentation à un an.
C'est énorme.
C'est presque la moitié.
Mais ça me surprend pas. Le monde rush, ça me surprend pas pantoute. Tu sais, t'as malheureusement des familles qui ont de la misère à nourrir leurs enfants. Fait qu'ils vont faire des passe-passe dans l'épicerie puis ils vont essayer de se donner un coup de main. Ça veut pas dire que c'est correct.
Parce que le cas que j'ai ici, là, c'est boutique Jeux Imaginaires.
OK.
Fait que lui, il se fait dévaliser constamment, tellement qu'il a dit à ses employés, savez-vous quoi, si vous payez des voleurs, ben je vais vous donner un montant. Ça peut-tu être 100$ que je vais vous donner? Ça peut-tu être 500$? Vous pognez un employé qui vole à l'interne, je vous donne 500$.
Oh boy, okay. Fait que si t'es snitch, tu peux gagner à l'être.
On paye les snitchs! Mais moi, je suis pour ça.
Mais ça responsabilise. Moi aussi, je trouve ça correct.
Il n'y a rien de pire pour une entreprise que les employés qui te volent.
Je pense ça que arrive souvent, ça.
Puis c'est autour d'à peu près de 40 % des vols dans une entreprise qui sont commis par les employés. Petit vol comme grand vol, soit dit en passant, là, que tu voles un raisin ou que tu voles une télé... On s'entend que le montant est pas...
souvent des pots de type, ça va arriver.
Le montant n'est pas le même, mais n'en demeure pas moins que c'est un vol. Lui, il se fait voler des Lego. c'est l'enfer. Donc, en l'espace...
C'est spécial. J'aurais pensé que ça aurait été plus au niveau des besoins primaires, mettons qu'il y aurait eu beaucoup de vols, tu sais. Les Lego, c'est pas nécessaire à ta vie, là.
Ben, c'est sûr qu'il y en a, là. T'sais, puis, je veux dire, ça doit pas être si difficile que ça, là. Moi, l'épicerie à côté de chez nous, là, je vais tout le temps magasiner le soir mes affaires. Je vais à l'épicerie, là. Puis il y a les caisses automatiques qui sont là. Tout le monde prend les caisses automatiques, puis les trois jeunes sont même pas dans le magasin. Ils sont à l'entrée, puis ils parlent, puis ils jasent.
C'est vrai, ça, par exemple, qu'il y a un gros problème au niveau des employés. Là. Honnêtement, là, c'est lourd. Parce que le pire, c'est que dans plusieurs épiceries, moi, l'épicerie côté de chez nous, c'est écrit, tu peux pas rentrer qu'un sac. Tu peux pas rentrer qu'un sac à dos, mettons. Tu peux pas. Fait que, tu sais, si tu veux voler de quoi, faut que tu le mettes dans tes poches. Là. Mais c'est sûr que. Puis le pire, c'est que normalement, c'est quand même bien fait, les petites machines automatiques. Là. Mais c'est sûr que si les employés sont pas observateurs, il y a moyen de moyenner. Tu scannes un élément sur deux, là. Ça peut se faire, là.
Ouais. OK. Mais, c'est ça. 40 % je trouve ça.
C'est énorme.
Très gros, là. Puis ça doit être épouvantable.
On nous demande si c'est vrai que tu as déjà volé des bananes.
Oui, pour mon gorille.
Ton gorille.
Mon gorille avec qui je vais me battre le 27 septembre prochain au Centre Horizon avec la NSPW. D'ailleurs, il reste des billets.
Oui.
Vous pouvez vous en procurer. Vous allez sur le site Le Point de Vente. Vous tapez NSPW pour cette fameuse soirée bénéfice au profit de la bouchée généreuse. Puis, on va se battre, moi et gros gorille. Et il va avoir une grosse carte de boxe aussi avec des gens très professionnels, pas mal plus
talentueux,
que moi.
Oui.
Le problème, c'est que si vous restez jusqu'à la fin, il va y avoir un massacre.
Oui, c'est ça. T'as beaucoup de confiance. Ça fait peur. Ça. Tu sais que dans deux jours, Pascal et moi, on va magasiner ton kit. Hein?
Oui, c'est plus ça qui me fait peur que la me contre Gros Gorille.
Moi, j'ai hâte.
11h25, Audrey.
Oui.
Bonne fin de journée.
Et toi aussi.
On t'écoute dans le retour avec Denis Véro tantôt. Sinon, ben, nous autres, on se retrouve après la pause. Mais juste avant, les trois accords, Corinne sur les ondes de boulevard. Merci d'avoir été là dans l'Open Mic.
Ciao.